Radio France Internationale, il est 18h à Paris, 16h en temps universel.
Le journal. En français facile, Marion Cazanov.
Vendredi 7 juin 2024, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile. À la une, Joe Biden encore en Normandie pour les suites des commémorations du débarquement. Dans un discours, le président américain compare les menaces qui pesaient sur l'Europe il y a 80 ans à celles d'aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. En France, Volodymyr Zelensky, président ukrainien, s'exprime devant les députés. Il remercie la France pour son soutien et défend une Europe plus forte que le mal. Cuba va accueillir la semaine prochaine des navires de la marine russe. Et puis le Japon veut comprendre ce qu'il se passe dans son ciel. Il lance un groupe de travail sur les ovnis, les objets volants non identifiés. Joe Biden, le président américain, est resté en Normandie aujourd'hui. Il a participé hier aux commémorations du débarquement des Alliés. Le chef d'État a prononcé tout à l'heure un dernier discours dans la région. Il était sur la pointe du Hoc, un lieu historique. C'est ici que des combattants alliés ont mené un assaut très risqué il y a 80 ans. Joe Biden a rendu hommage aux soldats qui ont combattu en 1944 et il fait le parallèle avec l'actualité et le retour de la guerre en Europe.
Ils se sont dressés contre l'agression d'Hitler. Qui doute qu'aujourd'hui, ils voudraient que l'Amérique s'oppose à l'agression de Poutine ici en Europe ? Ils ont pris d'assaut les plages aux côtés de leurs alliés. Quelqu'un croit-il que ces Rangers voudraient que l'Amérique fasse cavalier seul aujourd'hui ? Ils se sont battus pour vaincre une idéologie haineuse dans les années 30 et 40. Qui peut douter qu'ils ne remueraient pas ciel et terre pour vaincre les idéologies haineuses d'aujourd'hui ? Ces Rangers ont placé leur mission et leur pays au-dessus d'eux-mêmes. Quelqu'un croit-il qu'ils n'en demanderaient pas moins de chaque Américain aujourd'hui ? Ces Rangers se souvenaient avec respect de ceux qui avaient donné leur vie au combat. Pourrait-il imaginer que l'Amérique n'en fasse pas autant aujourd'hui ?
Joe Biden, le président américain, continue d'ailleurs d'affirmer son soutien à l'Ukraine. Il a annoncé une nouvelle aide de 225 millions de dollars pour Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est justement resté en France, lui aussi, après les commémorations du D-Day, du débarquement. Aujourd'hui, à Paris, il a parlé devant les députés, à l'Assemblée nationale. Lui aussi a comparé le débarquement de 1944 avec la situation de son pays, Aurélien de Vernois.
France, je vous remercie.
Des remerciements de Volodymyr Zelensky accueillis par un tonnerre d'applaudissements des députés. Au lendemain de l'annonce par Emmanuel Macron de la livraison d'avions de chasse par la France, le président ukrainien n'a pas caché sa satisfaction.
Je suis certain qu'un jour viendra où l'Ukraine pourra voir dans son ciel ces avions tels que nous les avons vus hier dans le ciel de Normandie et qu'ils prouveront que l'Europe est plus forte que le mal qui a osé la menacer.
Mais il a aussi rappelé que la Russie était un ennemi commun de l'Ukraine et de l'Europe, rappelant notamment ses actions contre les intérêts français.
Ce régime russe ne connaît pas de limites. L'Europe ne lui suffit plus. Il a détruit la Syrie, perturbe le Sahel, il investit dans la terreur.
Poutine, c'est l'anti-Europe, a martelé Volodymyr Zelensky, tout en affichant son optimisme pour une solution diplomatique au conflit avec la conférence pour la paix organisée en Suisse la semaine prochaine.
Chers amis, le sommet pour la paix sera notre D-Day, le jour de la diplomatie.
Mais les 15 et 16 juin, près de Lucerne, les absents seront très nombreux. Outre la Russie non invitée, la Chine et la plupart des pays d'Afrique et d'Amérique latine ne devraient pas faire le déplacement.
Aurélien de Vernois, la Russie continue d'avancer en Ukraine, de gagner du terrain. Selon son président, Vladimir Poutine, l'armée russe a conquis 47 villages depuis le début de l'année. Trois bateaux et un sous-marin nucléaire russe sont en route pour Cuba. Ils traversent en ce moment l'Atlantique et devraient arriver la semaine prochaine, selon les autorités cubaines. Un accueil au nom, je cite, des relations historiquement amicales entre Moscou et la Havane. Bonjour Vincent Souriau.
Bonjour.
Face au soutien répété de l'Occident à l'Ukraine, la Russie montre qu'elle peut montrer les muscles, y compris dans le jardin de Washington.
Et oui, la marine russe devrait rester environ 8 jours dans les Caraïbes. Ce n'est pas officiel, mais il faut s'attendre à des manœuvres militaires conjointes, des simulations de combats navals et aériens coordonnées entre Cuba et la Russie. Et cela, ça n'est jamais arrivé depuis 5 ans. Vladimir Poutine montre une fois de plus que les Occidentaux ne l'impressionnent pas, avec l'aide du côté cubain d'un certain Raúl Castro, 93 ans, officiellement retraité, mais toujours très influent, selon le chercheur Rafael Pedemonte de l'Université de Poitiers.
C'est Raúl Castro qui a articulé les relations militaires avec la Russie depuis 1960. Donc je pense que lui, il reste effectivement assez... on va dire fidèle à l'Union soviétique, puis ensuite la Russie. Et à mon avis, c'est toujours à cette échelle-là qu'on prend les décisions les plus importantes.
Cuba qui prend tout de même ses précautions, déploiement d'après la Havane qui n'enfreint pas le droit international et qui ne menace pas l'ordre régional puisque aucun des navires russes n'est équipé d'armes nucléaires. L'analyse est la même à Washington. Les États-Unis ne se disent ni inquiets ni surpris, mais regarderont ce spectacle de très près.
Vincent Souriau du service international de RFI. Les États-Unis regardent aussi du côté du Proche-Orient, à Gaza. L'armée américaine a pu réinstaller le port temporaire dans l'enclave palestinienne. Il avait été construit pour recevoir de l'aide humanitaire envoyée par bateau, mais il a été endommagé, abîmé par une tempête. Le port peut donc à nouveau fonctionner. Gaza est toujours bombardé par l'armée israélienne. Le Hamas doit valider ou non, dans les prochains jours, un accord de trêve. La guerre entre Israël et le Hamas est entrée aujourd'hui dans son 9e mois. Aujourd'hui, en Chine, 13 millions de lycéens partagent la même inquiétude, le même stress. Le Gaokao a débuté aujourd'hui. Il s'agit d'un concours très exigeant pour entrer à l'université. Les jeunes Chinois préparent ces épreuves dès leur plus jeune âge. Beaucoup de parents paient même à leurs enfants des cours particuliers. On reste en Asie. Nous partons pour le Japon. À présent, le Japon se penche très sérieusement sur la question des ovnis, les objets volants non identifiés. Le Parlement vient de lancer un groupe de travail. Il devra déterminer si ces ovnis sont une menace pour la sécurité nationale, Frédéric Charles.
Les parlementaires japonais ne disent pas s'ils croient ou non aux soucoupes volantes et aux extraterrestres. Ils défendent une approche scientifique rigoureuse de ce phénomène. Ce n'est pas parce que l'on ne connaît pas la nature exacte de ce phénomène aérien que nous devons continuer à faire l'autruche, déclare un ancien ministre de la Défense. Le groupe de travail veut que le gouvernement japonais améliore ses capacités de détection des ovnis. Le Pentagone américain reconnaît que ces phénomènes posent un problème de sécurité nationale. Un député japonais dit que si les ovnis se révélaient être des armes secrètes de pointe ou des drones espions déguisés, cela pourrait constituer une menace pour la sécurité du Japon. Dans la culture japonaise, les ovnis relèvent des sciences occultes, de la magie, et n'ont rien à voir avec la politique, constate un autre parlementaire. Le ministère japonais de la Défense a estimé que plusieurs ovnis aperçus dans l'espace aérien japonais ces dernières années étaient sans doute des ballons espions chinois. Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Retour sur Terre. Plus précisément sur la terre battue de Roland-Garros, le tournoi de tennis touche à sa fin. Les demi-finales hommes ont lieu en ce moment avec un match Yannick Sinner, Carlos Alcaraz que vous suivez, Olivier Pron. Un match qui se poursuit dans un 5e set.
3h30 de jeu, 2 sets partout, mais semble-t-il enfin Carlos Alcaraz, le numéro 3 mondial, qui semble prendre le dessus. Nous sommes au tout début de la cinquième et dernière manche. Il mène 1-0 et il a une occasion là sur un superbe passing shot, un superbe coup de revers, de prendre le service de Yannick Sinner pour mener 2-0 et donc prendre une option sur une première finale à Roland-Garros pour le numéro 3 mondial.
Olivier Pron à Roland-Garros, il est 18h10 à Paris, 16h10 en temps universel.